Je ne sais pas vous, mais pour moi, il m'arrive quand je suis perplexe devant une question difficile, ou quand, par exemple, j'ai à écrire une prédication subtile, il m'arrive de faire appel à l'esprit. Il y a pire comme recours. Ce qui est déroutant avec l'esprit, hormis le fait qu'il souffle où il veut, quand il veut, comme il veut, c'est qu'on ne peut jamais le prendre sur le fait. Jamais on ne peut dire « ceci est l'œuvre de l'esprit ». Et pourtant, nous savons par Jésus que l'esprit est toujours à l'ouvrage. Nous venons de lire des textes connus. Dans le groupe de préparation, nous avons partagé nos réflexions, nos questions, nos réticences, et nous avons tous reculé d'un même élan. La Trinité ne nous inspire pas. C'est le comble. Mais c'est un peu comme s'il fallait nous intéresser à la quadrature du cercle. J'essaye de mettre des mots sur notre malaise, qui concerne aussi le texte de Paul. D'abord, le texte de Paul aux Romains. C'est le péché qui habite en moi, qui fait le mal que je ne veux pas. Mais dans une autre lettre, aux Galates, cette fois, Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Puis, dans le texte de Jean, Jean nous envoie le paraclet, l'Esprit, d'auprès du Père. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. » Et moi en vous. Alors le vertige nous prend un peu. Qui est qui? Tout a l'air si mélangé. Qui sommes-nous? Est-ce bien moi qui mène ma vie? Ou bien des forces qui agissent en moi? Qui est ce Dieu un, et pourtant Père, Fils et Esprit? Pourtant, ces textes ne s'adressent pas qu'à des érudits, des philosophes ou des psychanalystes. Ils devraient nous parler, à nous aussi. Alors courage. Et nous avons la clé, justement, dans le texte de Jean. Cet extrait de l'Évangile fait partie du discours d'adieu de Jésus. On y sent la sollicitude de Jésus pour ses amis. « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Jésus sait que la séparation, j'allais dire le sevrage, va être rude. Il sait aussi que les motifs d'incompréhension de son enseignement vont abonder. Mais il est étonnamment confiant. Et puis, n'oublions pas que ces textes ont été écrits après. Après la mort de Jésus. Après sa résurrection, après la deuxième séparation, après l'envoi de l'Esprit, et après un début de vie en Église. L'évangéliste ou les évangélistes sont alors bien témoins que Jésus ne les a pas laissés orphelins. La clé, c'est l'esprit de vérité. Et dans l'esprit de vérité, chacun trouve sa vraie place. Quelle est-elle, cette place? Là encore, on peut écouter Jésus. Il a passé toute sa vie à nous montrer le Père, à nous tourner vers lui. Même quand le travail ne manquait pas, les disciples à enseigner, les malades et les éclopés à remettre sur pied, les autorités hostiles à gérer. Même dans ces moments-là, et jusqu'à la fin, Jésus part dans la campagne, de nuit, pour prier le Père. Et forcément, alors, tout son enseignement, ses guérisons, ses prises de position, ne parlent que du Père et du royaume qui vient. Mission accomplie pour Jean l'évangéliste, qui annonçait la couleur dans son prologue, « Personne n'a jamais vu Dieu, Le Fils, lui, le dévoile, le fait connaître, l'exprime, le traduit, l'incarne. Bon, alors d'accord pour le Père et le Fils, et l'Esprit. Parce que l'Esprit était déjà là dans le Premier Testament. Et même tout au début, tout au début, l'Esprit de Dieu planait sur le chaos primordial. Puis on le voit à l'œuvre chez les prophètes. L'Esprit de Dieu m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Déjà, on ne séparait pas l'Esprit de Dieu et Dieu. Et maintenant, on ne peut plus séparer Dieu, Jésus le Christ et l'Esprit. Et pourtant, ils ne sont pas fondus les uns dans les autres. Ça nous arrangerait bien de faire un paquet cadeau et dire « Tout ça, c'est Dieu ». L'ennui, c'est que Jésus ne voit pas les choses comme ça. Et comme c'est lui l'interprète, a dit très mystère, mystère. Nous avons un petit dévoilement de ce mystère dans le texte même encore. Au verset 15. « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet. » Et au verset 21, mais c'est tout le texte qui respire l'amour. « Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et me manifesterai à lui. » Alors nous, avec l'expérience ténue que nous avons de l'amour, des moments de grâce d'une relation. Nous comprenons que dans l'amour, nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Contrairement à ce que dit le dicton, l'amour n'est pas aveugle. L'amour vrai rend voyant. C'est ce que dit Jésus dans son discours d'adieu. « Je m'en vais, mais je vous envoie le paraclet. » Littéralement, l'avocat, le défenseur, et même le consolateur. Non pas comme un somnifère, comme un doudou, mais comme un élan, une audace, un courage. Jean Grosjean, un théologien que j'aime beaucoup, dit « Le Fils va nous donner sa respiration de Fils. Après ces jours de Messie, viennent les jours de son souffle. » Voilà où nous en sommes. Et vous croyez que cette histoire d'amour et de feu va s'éteindre? Ça ne lui ressemble pas. Amen.